Good morning Vostok. Focus Actu.
La SSR doit rester l'une des garantes de la cohésion nationale.
Et c'est pas moi qui le dis, ni toi non plus Lola, mais bien le très respecté journal Le Temps. Pourtant, souvent classé à droite de l'échiquier politique, qu'il affirme dans son édito en une ce lundi. Si le journal s'inquiète, c'est qu'il y a un peu le feu au lac quand même. Exacerbé par les réseaux sociaux, les fossés se creusent entre les régions linguistiques, mais aussi entre la ville et la campagne. Parmi les garants d'une union fondamentale, il y a la SSR, qui parle de la Suisse à l'ensemble des habitants du pays, quelle que soit leur origine, leur niveau social, leur âge ou leur sensibilité politique, nous rappelle Vincent Bourquin, rédacteur en chef adjoint. Pour autant, la SSR doit encore faire des efforts, selon l'éditorialiste qui souligne un besoin de rationalisation ou rappelle le rétro-pédalage sur l'abandon de la radio FM. Ouais, tu sais, le truc qu'on a coupé avant de se rendre compte qu'on perdait la moitié de nos auditeurs. En conclusion, Vincent Bourquin, c'est sa mission de cohésion nationale que la SSR ne devra pas oublier en cas de rejet de l'initiative 200 francs, ça suffit, c'est sa conclusion.
Les locataires.
Attends, j'ai rajouté un petit truc. D'ailleurs, un petit entrefilet de deux pages plus loin nous renseigne sur une manifestation passée un peu inaperçue. Plus de 2000 personnes ont manifesté selon la police. 6000 selon les participants, ça se passe dans le Tessin. Donc il y a des gens qui descendent dans la rue pour la SSR. Fou, hein? Là, tu peux y aller, pardon.
C'est bon, ça y est. Ok, super feu vert. Les locataires de Karl Vogt montrent leur visage.
Des locataires entre révolte et amertume pour la Tribune de Genève qui a décidé de mettre le sujet à la une lundi, de signer un édito. Pour la journaliste Léa Frischnett, Karl Vogt est un combat légitime. Elle souligne qu'un appartement est bien plus qu'une possibilité de revenu exponentiel pour les spéculateurs. C'est un logement où on se sent à l'abri et l'on voit grandir sa famille. C'est toute une vie et dès lors on ne peut que comprendre leur colère et leur combat. La Tribune signe une série de portraits en donnant un visage aux habitants comme l'avait fait le Courrier en janvier, sur un ton émotionnel et revendicateur. D'ailleurs, en reparcourant cet article du Courrier, j'ai remarqué là aussi un petit entrefilet. Tu sais, Lola, cette petite info que tu places discrètement parce que bon, tu savais pas où la mettre. Alors, est-ce que vous savez autour de la table combien ont coûté les immeubles Karl Vogt aux mécènes et hommes d'affaires Metin Harditi en 1999? Je vous pose la question.
Ouf,
évidemment pas.
Non. Ouais.
C'est ça. Ben, 10 millions. Ah. Et combien il les a revendus 20 ans plus tard, en 2020? Allez, un petit chiffre. 10 millions au départ, 20 ans plus tard.
Je sais pas, 1 milliard, allez, boum.
Non, mais quand même.
Bah, je sais pas. Je vois les choses en grand.
Allez, 128 millions. Voilà, donc il a fait à peu près x 12. Voilà pour le petit entrefilet. Ici, on a le droit, donc c'est pas comme dans le Courrier, on a le droit à des portraits photos en situation et des témoignages qui mettent les choses en perspective. Cette affaire est le reflet de la brutalité de ce monde, résume très justement un des habitants dans la Tribune.
Jack Lang est tombé de l'armoire.
Ouais, il fallait suivre le JT de 20h sur France Télévisions mardi 3 février pour goûter cette réplique croustillante tout droit sortie du XXe siècle et de la bouche de l'intéressé lui-même, ça s'invente pas quand même. L'ancien ministre de la Culture française Jack Lang serait donc tombé de l'armoire quand il a appris que Jeffrey Epstein était un délinquant sexuel, alors que les Epstein Files révèlent une correspondance nourrie entre lui, sa fille et Jeffrey Epstein. Les mails rendus publics dévoilent une société offshore détenue moitié-moitié par Caroline Lang et Epstein, ainsi qu'un testament à plus de 5 millions de francs, ce dont Caroline Lang n'aurait jamais entendu parler, on est bien d'accord. Hein. Au final, le père et la fille sont tombés d'un peu plus haut que l'armoire. Ils ont été contraints à démissionner de leur mandat public et le parquet national financier français a ouvert une enquête pour fraude fiscale à leur encontre.
Cette affaire Epstein, c'est de plus en plus obscur.
L'affaire Epstein, le côté obscur de la globalisation, titre Le Matin dimanche, qui met le sujet à la une avec une interview du criminologue Xavier Raufer. Selon lui, cette histoire est infiniment simple. C'est celle d'un individu, Jeffrey Epstein, qui a recruté des jeunes femmes, dont des mineurs, durant une trentaine d'années pour les proposer à des individus riches et puissants. De plus, il est mort dans des circonstances très suspectes, puisque ses blessures ne correspondent pas à une mort par pendaison. L'expert nous explique que la semaine écoulée revient à craquer une allumette dans une cave plongée dans le noir. Et là, vous découvrez un tableau inattendu. Selon Xavier Raufer, le vrai scandale, c'est qu'aucune des personnes mises en cause par les victimes n'a été entendue par la police. Pour le criminologue, l'affaire Epstein, c'est le côté obscur de la mondialisation par le sommet, ses élites. Quant à savoir pourquoi Trump n'a pas tenu promesse sur toutes les révélations, Xavier Raufer a une réponse toute faite. Le fond de cette affaire, c'est ce qu'on appelle les secrets d'État. Et les secrets d'État, c'est secret.
Radio Vostok. Écoute. Explore.